Bonjour à tous, bonjour à toutes. Éco en folie vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Bernard, bonjour et bonne année, bonne économie en folie.
Ah oui, bonne année à tout le monde, mais surtout que l'économie aille mieux, et en particulier dans le secteur agricole, comme nous allons le voir.
Exactement. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes accompagné de deux invités. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Rafit, je suis installé sur la commune de La Tour, en Beauvais-Vianda. Je fais de la vente directe au niveau du bœuf, et par contre, tout ce qui est veau, c'est plutôt pour l'exportation.
Mm-hmm.
Monsieur Robineau, exploitant à la Cogne. Moi, je suis en céréales, en grande culture et en volaille vivante.
D'accord.
Une petite partie en vente directe et puis le reste en circuit classique.
Et vous avez avec vous nos deux stagiaires qui vont justement voir comment on fait une émission à la radio. Il s'agit de Guerlain et de Antoine.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Messieurs, pour cette économie en folie, nous avons choisi l'agriculture. Bernard, je suppose que vous allez commencer avec des chiffres.
Ben, quand on parle agriculture, quand on voit le débat, quand on voit les animations, quand on voit les mouvements dans la rue, la révolte des agriculteurs, ben, c'est toujours le problème d'avoir quelques données chiffrées pour se faire une idée de la situation dans ce monde-là. Pourquoi il faut se faire une idée de ce monde-là ? Parce que malheureusement, pour beaucoup de gens, il est de plus en plus éloigné. Mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Ben, l'agriculture en France, historiquement, c'est le grand secteur d'activité. Ça a été petit à petit étouffé par la révolution industrielle et l'industrialisation dans notre monde. Mais la France est toujours le premier européen, c'est la première agriculture européenne. Derrière, il y a l'Allemagne, en troisième, ce qui reste de l'Italie. La production, il ne faut jamais l'oublier, elle est quand même de l'ordre de plus de 70 milliards d'euros. Voilà ce que produisent en valeur nos agriculteurs dans ce monde-là. Et ensuite, cette production dégage encore, mais jusqu'à quand ? Gros problème, dégage un excédent commercial de l'ordre de 7 milliards d'euros. C'est aussi extrêmement important. En sachant que dans les exportations comme dans les importations, on ne parle pas que des produits bruts. Il faut aussi intégrer les produits transformés. Cette activité, si on prend tout, l'agriculture, plus toute l'industrie qui est branchée sur l'agriculture, le tracteur ou celui qui fait du beurre ou des camemberts. Si on prend le tout, ça représente quand même pratiquement 6% de notre richesse nationale. C'est pas rien. En termes d'activité, ce n'est pas rien du tout, l'agriculture. Et ensuite, le deuxième aspect dans l'agriculture qu'il ne faut jamais oublier, c'est la couverture de notre territoire, l'aménagement de notre espace. Notre pays ne serait pas le même s'il n'y avait pas d'agriculteurs.
Oui, bien sûr.
Après, bien sûr, chacun va faire des reproches, ou ceci, ou cela. Bien sûr, on va parler. Mais c'est cet état. Le problème qui se passe, c'est cette modernisation. Dans les chiffres, aujourd'hui, on est de l'ordre de 460 000 exploitations agricoles en France. Il y a 10 ans, on était presque 600 000. Il y a 30 ans, on était 1,5 million d'exploitations agricoles en France. Vous imaginez ? La concentration qu'il y a dans ce monde-là, la disparition nombreuse de fermes, la concentration aussi des terres qu'il y a, hein, ça signifie. Et derrière, certainement, la recherche d'une rentabilité qui n'est pas toujours assurée. D'ailleurs, en parlant chiffres, je dis merci aux chambres d'agriculture du travail qui est fait au niveau de la collecte des chiffres, bien que des fois il y a des divergences avec l'INSEE. Je remercie aussi, de ce point de vue, la mutualité sociale agricole, qui fait aussi de très très bonnes études au niveau des chiffres sur le département, sur la France entière. Et je crois que c'est important, très important de les remercier. Et le nombre d'exploitations, eh bien, il diminue. L'âge moyen des agriculteurs est aujourd'hui plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans. Comment ça va se passer dans les années qui viennent ? Est-ce que leurs enfants vont prendre la succession ? Est-ce qu'ils auront les moyens, l'envie de prendre la succession ? Quand ils voient l'état de difficulté de leurs parents, il y en a certains, je pense, et j'en ai rencontré, qui sont partis vers autre chose. C'est ça, on a une agriculture qui est au bord de la crise de nerfs. Moi, je la vois comme ça. Mais à travers les chiffres en particulier. Si on parle d'un revenu, par exemple, pour les agriculteurs, aujourd'hui, on estime, le revenu moyen, c'est 1250 euros par mois. C'est le revenu moyen de tous les agriculteurs. Mais en fait,
Il y a
les petits, il y a les grands. Il y a ceux qui ont de grands territoires sur des productions qui restent encore rentables et d'autres qui sont dans des territoires beaucoup plus difficiles, mais indispensables dans notre paysage. Et il y a un tiers des agriculteurs qui ont moins de 300 euros par mois. C'est un chiffre qu'on oublie souvent. Mm-hmm. C'est un chiffre que m'a indiqué la MSA, et surtout.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est dramatique. Il y a des agriculteurs qui sont au bord de la misère, en quelque sorte. Comment font-ils pour s'en sortir?
Oui.
C'est très difficile. Derrière, il y a l'Europe. Il faut en parler un peu. En ce qui concerne l'Europe, c'est la PAC. Et la PAC, elle profite aussi, pas à tous les agriculteurs. Autre petit problème, puisque la PAC est en réforme, dans cet hiver d'ailleurs, début 2020, ils vont revoir toute la PAC. Est-ce qu'elle va être mieux redistribuée et non pas à l'hectare? Parce qu'à l'hectare, évidemment, plus vous en avez, plus c'est censé rapporter. C'est plus compliqué que ça. Mais... Ensuite, un phénomène aussi très intéressant que je voulais souligner, c'est qu'on assiste à une féminisation du métier. On estime actuellement qu'il y a un quart des chefs d'exploitation qui sont des femmes. C'est nouveau. Pour moi, c'est très nouveau. À mon âge, et je suis fils d'agriculteur, je n'ai, dans ma jeunesse, jamais rencontré une chef d'exploitation. Aujourd'hui...
Il y a une explication qui peut se...
Alors
Le métier d'agriculteur, on est beaucoup plus confronté à la clientèle. Et je pense que là-dessus, la femme a sûrement plus de qualité dans le relationnel que peut avoir un homme. Je pense que ça peut y jouer. La vente directe a beaucoup pris d'importance au sein des exploitations. Et pour ça, les femmes ont trouvé leur place à ce niveau-là dans l'agriculture.
C'est des changements qu'on ne perçoit pas, et qui sont réels lorsqu'on regarde les chiffres de la MSA. Hein. C'est vrai. Et l'explication peut-être...
C'en est une, hein. C'est pas la seule. Mais c'est,
je pense que certainement, certainement, bien sûr. Ensuite, si dans le vécu, on va parler rapidement vers le vécu, on va essayer de passer à autre chose. Dans le vécu, le monde paysan s'est fractionné aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas dû au hasard, au niveau syndical en particulier. La FNSEA, qui est le grand syndicat historique agricole, on est pour ou pas, et ce n'est pas l'objet d'en discuter là. Mais si vous voulez, aujourd'hui, elle recueille à peu près à peine 30% des votes des agriculteurs. Et pourtant, c'est elle qui a le plus d'influence au niveau politique. D'ailleurs, elle a plusieurs de ses anciens dirigeants qui sont dans la politique, qui sont à l'Assemblée nationale, voire au Sénat. Bon, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ils ont un lobby très très fort au niveau du gouvernement, ça c'est clair. Et la FNSEA, alors là, personnellement, je ne sais pas ce que vont passer les collègues, personnellement, depuis quelques mois, elle... défend ce qu'on appelle l'agri-machine, c'est-à-dire elle accuse les citoyens français de trahir, de ne pas aimer les agriculteurs. Qu'on leur en veut, qu'on veut les détruire, etc. Et on l'a vu, hein, vraiment. Et ça, il y a plusieurs articles qui sont parlés, sans citer les membres de la FNSEA. Hein. Je reste prudent, mais qui ont à la télévision, aux radios, qui sont passés en disant « Oui, on nous en veut, on veut nous détruire, etc. » Et ça... Je vais vous dire quelque chose, de dire que la France n'aimerait pas, n'aimerait plus ses paysans, c'est un mensonge complet. Nous sommes dans le Volvestre, nous sommes dans une zone rurale. Les agriculteurs et ceux qui ne le sont pas, effectivement, quoi qu'on le veuille, ils sont bien mélangés. Et en ce qui concerne les agriculteurs, je pense qu'ils ont beaucoup de respect de la plupart des autres citoyens. Par rapport à l'activité, les difficultés de leur activité, les contraintes de leur activité. Eh, c'est vrai, mais oui, il fait la moisson et c'est tard le soir. Mais oui, il faut la faire. Et le blé est mûr, c'est sec, il faut y aller. Eh bien, les gens autour de moi respectent tout à fait ce choix. Et que le tracteur va tourner pendant 3 heures, eh bien, alors. Et alors ouais. C'est pour nourrir le monde.
Sur le Volvestre, bon, ça reste un peu présent, mais bon, il y a quand même des changements aussi.
Oui.
On n'est plus l'agriculteur que l'on suit. Il y a le problème de l'agribashing, bien sûr, avec notamment le glyphosate. Hein. Bon, moi, je ne suis pas en bio, je suis en conventionnel. Bon, c'est pas pour ça que j'en utilise, mais quand j'ai un client qui est devant moi, il me demande de suite si je suis en bio ou pas bio. Voilà. Si à partir du moment où je ne dis pas que je suis en bio, je peux passer pour le mauvais citoyen parce qu'on assimile le conventionnel de suite à la pollution, quoi.
Oui, et ça c'est un sujet sur lequel on va revenir, bien entendu.
Moi j'ai le souci plutôt, je peux avoir le souci avec les odeurs que peuvent créer un élevage.
C'est quelque chose aussi qui est réel par contre, qui apparaît, mais c'est surtout dans les zones très urbanisées. En fait,
voilà, assez loin, mais...
Assez loin, voilà.
La question se pose quand même.
La question se pose. Mais bon, il y a des gens, ils ne supportent pas le coq.
Pour revenir à, justement à ce que disait Sam, moi, on m'a reproché d'avoir un peu de boue sur la route, d'avoir une voiture qui soit salie. Et ça l'embêtait de nettoyer sa voiture.
Oui. Bon.
Et pourtant, oui, je suis...
Bien sûr.
Je suis quand même en campagne, quoi.
Mais en campagne, voilà des reproches techniques. C'est la même chose à ceux qui reprochent les cloches. Le coq du voisin, hein, les chiens du chasseur, évidemment, etc. Il y a des gens qui ne supportent pas tout ce qui... Ils viennent là en pensant que c'est beau et tranquille, mais c'est pas beau et tranquille. C'est magnifique et agité. C'est plein de vie. C'est pour ça. Mais pourquoi pas? C'est ça l'agriculture aussi.
Tout à fait.
Un monde, c'est un paysage.
Tout à fait.
Sinon, ça serait couvert de forêts, ça aurait son charme, certainement, les forêts. Mais bon, là, ça ne serait pas la même chose. Pour revenir là-dessus, moi, je pense justement que cette utilisation est faite, du moins par certains agriculteurs, pour demander des revendications, pour se trancher, etc. Je pense que c'est une erreur de leur part de faire ça et que ça les dessert, en fait. Parce que le réel, le concret... Ils sont là, les agriculteurs, dans notre zone. Ben, il y en a un qui va reprocher, c'est dommage, qu'il y ait de la boue sur la route parce qu'il est passé avec le tracteur après les pluies, que sais-je. L'autre, que quand on sort le fumier, ben, ça sent, oui, ça sent. Et on le laisse travailler, on le répand sur le champ, et là, ça sent aussi, ça sent fort, même, d'ailleurs. Et ben, ça dépend du vent, hein.
Oui, mais quand le pain sort du champ où il y a eu du fumier qui sent mauvais, le pain est bon.
Et bien voilà.
Meilleur c'est qu'avec ça. De l'engrais ou autre oui. chose.
Et ensuite, avant de parler vers les sujets d'actualité vraiment, pour reparler un petit peu chiffres, réalité, ce qui se passe aussi, c'est au niveau des jeunes. Alors moi, j'ai une sensibilité particulière dans le Volvestre, parce que je connais des jeunes qui ont fait des formations comme ça se fait aujourd'hui, hein, et qui ne sont pas nécessairement des fils de paysans aussi. Ils ont beaucoup de difficultés à s'installer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que dans ce nombre d'exploitations qui diminue, chacun prend suffisamment de terre, ça va déjà sur les gens qui en ont beaucoup, les agriculteurs qui en ont beaucoup. Donc dans l'implantation, bien qu'il y ait des associations qui les aident, hein, il faut le savoir aussi, c'est difficile. Et ça, c'est un peu dommage, peut-être, dans ce notre monde agricole. Je veux dire, dans la Bosse, un jeune agriculteur, je ne sais pas comment il fait pour s'installer. C'est tellement cher et capté, mais ça doit être très difficile à les savoir.
Sam, donc, peut-être veut réagir.
Oui,
oui, bah, je revenais sur le problème des terres. C'est beaucoup de capitaux à investir, c'est énorme. Et puis après, il faut savoir qu'en France, quand même, on perd en surface agricole un département tous les 10 ans.
Oui.
Qui est mangé par l'urbanisation.
Ah oui, oui, oui.
Donc forcément, ça, plus la concurrence, des exploitations qui s'agrandissent, c'est vrai que la place des jeunes est très difficile, surtout hors cadre familial.
Oui, surtout au cadre familial. Est très difficile, mais ils y ont accès à l'achat des terres, très difficile aussi, entre la SAFER et tout ça. Moi, j'ai des histoires là, très locales, à savoir qu'ils partent ailleurs.
Que vivez-vous, messieurs, maintenant, au quotidien? Comment vous le vivez, vous qui êtes éleveur, transformeur, ou je ne sais pas comment il faut dire, ou éleveur et agriculteur, pour céréalier plutôt? Comment se vit ce quotidien avec tout ce que vient de dire Bernard? Ça doit être lourd.
Alors oui, lourd, ça devient de plus en plus lourd. Le souci, il est qu'on a de plus en plus de démarches administratives à remplir, pour moi qui nous éloigne un peu plus du terrain. Mm-hmm. On est obligé de passer sur des formes de vente différentes. Donc c'est pour ça que moi, je suis passé sur de la vente directe, justement, pour essayer de valoriser un peu plus mon produit et que mon produit soit un peu plus mis en avant aussi. Parce qu'on travaille toujours de la même façon, comme faisaient mes grands-parents, mais le prix n'était plus en face. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers la vente directe et être plus proche de mes clients, quoi. Mm-hmm. Pour avoir un retour un peu plus intéressant aussi, quoi.
D'accord. Sam ?
Je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit, parce que je me suis orienté aussi sur de la vente directe. Bon, un peu pas de produits finis, mais de volailles vivantes. Pareil, pour retrouver un peu de marge. Parce que c'est vrai qu'on a des prix aujourd'hui, des prix agricoles qui ressemblent à des prix d'il y a 40 ans. Enfin, 40 ans, c'était mon grand-père, les débuts de mon père. Donc on a toujours les mêmes prix, par contre on n'a pas les mêmes charges.
Oui.
Donc on a besoin de toujours plus grand, toujours en faire plus, pour en avoir un petit peu. Puis à la fin, certains se font déborder et c'est là où arrivent les limites, quoi. Donc on n'est plus sur des exploitations familiales où toute une famille vivait dessus. Là, maintenant, déjà, se sortir un salaire juste pour soi, c'est déjà très compliqué.
Mmh. Alors, oui. Justement, tu vois, pour, je continue un peu dans le même sens. Moi, je vois, en 10 ans, sur notre exploitation, on était 3 foyers. 3 foyers qui avions comme revenu 500 euros chacun. Là, je suis tout seul. Je n'ai que 500 euros et je ne m'en sors pas. On voit qu'en 10 ans, quand même, il y a eu une sacrée régression au niveau du
milieu. Un demi-SMIC, voilà. Ça correspond à environ à un demi-SMIC par mois.
Voilà.
Ben oui, et tout à l'heure, je l'ai dit, un tiers des agriculteurs sont à peine 300 euros par mois. Mm-hmm. Un tiers, c'est énorme.
Oui, c'est énorme.
Et ne parlons pas de la retraite.
Oui.
Qui est un sujet qui a été d'actualité brûlante en décembre, donc on en reparlera plus tard.
Est-ce que vous employez tous les deux les pesticides, les herbicides avec parcimonie? Pas trop, mais il en faut un peu. Est-ce que vous vous sentez quand même en harmonie avec le monde agricole? Parce que de trop en employer, c'est vraiment industriel. Pas en employer du tout, c'est pas possible parce qu'on est vite dépassé.
Moi, déjà, je suis, donc comme je le disais, je suis sur les coteaux de Montesquieu-Volvestre.
Oui.
Donc déjà, un relief qui est assez pentu. Et c'est vrai que je consacre plus mes terres à faire du foin.
Oui.
Plutôt que des céréales.
Donc pas d'herbicide.
Il n'y a pas d'herbicide. Oui. J'ai eu quelquefois, désherber quelques clôtures.
Oui.
Mais après, en dehors de ça, non. Mm-hmm. Puis revenir aussi à des anciennes pratiques agricoles. C'est-à-dire, on a été poussé à une époque, bon, pas moi, mais plutôt mon père, par des conseillers agricoles qui prônaient la production intensive, donc de l'engrais. Et mon père surtout s'est rendu compte que la flore avait changé, que les animaux étaient un peu plus malades. Donc on a fait machine arrière, on a remis un peu de fumier, un peu de compost, et on a retrouvé une façon de travailler comme faisaient mes grands-parents, un peu plus en harmonie avec la nature.
D'accord.
Voilà.
Sam ?
Et moi, moi j'en utilise, vu que je fais de l'agriculture. Bon, la différence, c'est que ce que faisaient mes prédécesseurs, c'est que déjà, on a quand même 2/3 des produits en moins, donc on ne peut pas utiliser ce qui n'est pas autorisé. La différence aussi, c'est qu'on intervient que quand il y a quelque chose. Plus de prévention. Enfin, ça n'existe presque plus.
Oui.
Que ça soit sur un herbicide, on va intervenir sur de la flore qui existe, pas de la prévention. On va pas se dire, je vais passer ça au cas où il y aurait ça. Et surtout sur les fongicides, l'insecticide, c'est pareil. Puis après, de toute façon, on est au Volvestre, on n'est pas en Picardie ni dans la Beauce, on a un potentiel qui est limité. C'est de l'argent perdu aussi. Hein.
Oui.
Donc, s'il n'y en a pas besoin, on ne le mettra pas. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je fais de la volaille, donc de l'élevage, donc je valorise le fumier là-dessus. Donc, c'est vrai qu'au niveau engrais, je diminue un peu. Mais c'est vrai que j'en utilise. Mais parce que si j'en utilisais pas, ça serait du bio, mais pas labellisé bio, donc invendable. Donc, oui, j'en utilise.
Oui, mais vous l'utilisez, comme vous dites, avec parcimonie quand même.
Voilà, c'est du curatif et pas du préventif.
Et oui, mais bien obligé. Et je pense que la tendance va se poursuivre, parce que la progression en termes d'achat, les achats dans les produits agricoles,
de toute façon, la réglementation nous l'impose, parce que rien que dernièrement, 36 produits à base de glyphosate viennent interdits.
Oui.
Donc le glyphosate n'est pas interdit officiellement, mais petit à petit, il n'y en aura plus disponible à la vente, donc il sera plus utilisable. De toute façon, réglementairement, on nous l'impose. C'est pas que c'est un mal, hein, mais par la force des choses, de toute façon, on est amené à réduire.
Oui, mais derrière, quand on parle bio, précaution, etc., derrière, c'est le client. Et le client, tel que c'est actuellement, la demande progresse à grande vitesse dans ces produits dits bio ou préservés ou culture raisonnée. Ça progresse à grande vitesse. Et ça, pour moi, c'est de nouveau, quelque part, un danger dans le monde agricole. Ça progresse vite, il faut s'adapter. Et est-ce qu'ils ont les moyens financiers, entre autres, pour s'adapter dans plusieurs secteurs? Parce que derrière, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver des produits canadiens ou américains qui sont quand même très soi-disant bio ou d'autres pays auxquels il n'y a aucune certification.
Mm-hmm.
Et donc, réel.
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour le consommateur de consommer des produits soit raisonné comme dit Sam, soit plus bio, en tout cas plus naturel, comme le dit Christophe.
De toute façon, les meilleurs gages, c'est la proximité.
Oui, tout voilà. à fait. Je Donc, suis d'accord. Après... Plutôt que de consommer, je termine oui. mon petit... Plutôt que de consommer des produits bio-industriels. Ça existe. Oui,
le local est plus facile à vérifier voilà. que le bio qui vient de côté de l'Europe. Voilà. Donc,
Un bio qui vient de l'étranger, c'est une aberration. Excusez-moi. Quoi.
Déjà, en transport...
Voilà, le bilan carbone, il est pas bon du tout.
Il n'est pas bon du tout. Voilà. Et en plus, il y a le transport. Hein.
Ouais. Oui. Et, donc, oui. Et le cahier des charges, voilà. on ne le connaît pas.
Donc, il vaut mieux aller voir l'éleveur du coin, voir la façon de... Justement, discuter avec lui, voir ses façons de travailler. C'est nettement mieux que d'aller, entre guillemets, au supermarché et juste acheter un label qui est déjà en plus à un prix exorbitant. Entre guillemets, personne n'est gagnant, quoi.
Tout à fait.
À part la grande distribution.
Oui. Oui. Est-ce que c'est un souci pour vous de produire du bon, du meilleur marché, enfin, meilleur marché en produits?
C'est pas un souci. Nous, on est convaincus. Enfin, moi, personnellement, je suis convaincu de ce que je fais. Je pense que là où je ne suis pas bon, c'est de le montrer aux consommateurs, de le prouver. Je suis pas, faut être bon communicant aujourd'hui. On n'est pas seulement producteur, on n'est pas seulement éleveur. Aujourd'hui, il faut savoir communiquer. Et je pense que le défaut aujourd'hui des agriculteurs, enfin, s'ils veulent prendre le virage, c'est bien communiquer. Et ça, je pense que, enfin, moi personnellement, je ne suis pas très bon là-dessus. Et je sais qu'il faut que je m'améliore.
Ah, mais c'est sûr et certain. Notre métier, il a changé. Mmh. Voilà. Non, à la base, un agriculteur doit faire nourrir les citoyens de ses produits. C'est pas lui les commercialiser, quoi, à la base. Mm-hmm. Bon, et c'est sûr que maintenant, voilà, avec la vente directe, il faut absolument trouver les bons créneaux. Et donc, comme tu disais, la communication est hyper importante.
Expliquer aux consommateurs. Voilà.
Que, justement, on peut produire sainement, sans avoir une obligation de prix exorbitant avec un label derrière. Quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que... On a du mal à le mettre en place.
Oui.
Du mal, en sachant que des fois, il faut le regarder, c'est une réalité, puisque moi, je vais malheureusement faire un retour chiffré, comme on dit. En fait, quand on regarde l'ensemble de ces circuits ou de ces entreprises privées qui se lancent soi-disant pour de la vente directe, hein, sans les citer, je ne peux pas, bien entendu. Et en sachant que ce sont en fait des marques nationales, et d'entrée, ils prélèvent 20% ou 30% de la marge et on n'en parle plus. On se dit, pour l'agriculteur, il va pouvoir vendre sans intermédiaire, quasiment un seul, et il va avoir un accès, vraiment les clients vont être très contents. Mais en fait, l'entreprise en question lui dit, on ne va pas vous payer plus cher que pour une grande surface habituelle. Et là, il y a une illusion, il y a un vrai combat. C'est-à-dire, pour moi, c'est le monde agricole, les agriculteurs eux-mêmes, qui doivent prendre en main leur système de commercialisation.
Tout à fait.
Les coopératives qui existaient autrefois, je rappelle qu'elles n'existent plus. C'est des conglomérats énormes, des puissances financières énormes. Regardez ce qui s'est passé dans le lait et les produits laitiers. Les producteurs de lait ont été condamnés à mort par leur soi-disant coopérative. Mm-hmm. Encore ici, on en a une qui survit et qui est très intéressante. C'est la CAPLA, pour ne pas la nommer. Mais bon, il faut le faire. Il faut le faire. Elle est en danger, on le sait très bien. C'est difficile pour elle, dans ce monde où arrivent pour chercher les céréales, ils font des centaines de kilomètres pour venir chercher nos céréales, pour éviter que la CAPLA l'ait. Je vais être tonique, là. Hein.
Avec tout ce qui a été dit, est-ce que vous vous sentez loin des décideurs?
Alors, les décideurs, c'est plutôt eux qui sont loin de nous, en fait.
D'accord.
Parce que c'est super, ça.
Voilà. Ah oui. Nous, c'est super. Nous qui sommes au contact du terrain et des clients. Voilà. Ils ne prennent pas assez en cause nos revendications. Quoi.
Oui.
Ce qui est un peu dommage. Donc, je reviens sur l'histoire de la coopérative parce que, justement, je viens de rentrer administrateur au niveau de la CAPLA, justement pour qu'on puisse garder cette indépendance. Mm-hmm. Et essayer de pas se faire reprendre par la plus grosse coopérative, pas locale, mais du Sud.
On ne cite pas. Mais bon, tout le monde est au courant.
Nos jeunes stagiaires, avez-vous des questions à poser à ces professionnels de la terre?
Donc on vous a convaincu.
Est-ce que vous, à votre âge et avec vos yeux, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit?
Est-ce que vous faites la différence entre le conventionnel et le bio?
Le conventionnel, c'est plutôt industriel.
Et non, justement.
C'est
pas l'inverse, c'est que c'est une façon de travailler qui est différente.
On fait attention à tout.
Voilà.
On n'en met pas plus qu'il faut. C'est raisonné, c'est suivi. L'industriel, c'est de l'intensif. On en fait au maximum
volume,
sur le volume. Le volume. Voilà. Le conventionnel, c'est on fait attention à la nature, voilà. On fait attention à l'environnement, on fait attention aux animaux, on fait attention aux plantes, on fait attention à l'agriculteur aussi, il faut qu'il gagne son revenu. C'est très réfléchi. Alors, c'est pas du bio, c'est parce qu'on utilise les produits pour toujours en ressortir un minimum de résultats.
Voilà, on peut l'appeler plutôt raisonné, ça serait un meilleur terme que conventionnel.
Oui, conventionnel, ça fait un peu.
Ça fait encore barbare,
négatif,
ça. Hein,
ça fait un peu négatif. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a rien changé.
Oui.
C'est conventionnel. Alors que c'est les phénomènes inverses, effectivement.
Antoine,
vous êtes payé combien ?
Alors moi, il y a des fois, je me prends 1 000 euros par mois, il y a des fois, je ne me reprends pas. En moyenne, je suis à 800-900 euros.
D'accord.
Voilà, et pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, moi, je suis à 500 euros. Après, bien sûr, que, voilà, j'ai quelques avantages. La viande, notamment, je ne la paye pas. Voilà, et quelques légumes aussi.
On parlait de la viande aussi. Il y a le débat sur le bio. Débat sur le bio, mais il y a aussi un autre débat qui est propre à toutes nos sociétés et qui est effectivement problématique pour le secteur volvestre, c'est cette espèce de recul de consommation de la viande. Alors ce recul se fait avec derrière, une catastrophe pour mes yeux, une importation de viande à des prix plus bas que les points d'équilibre pour nos éleveurs en France. On importe de la viande d'Allemagne, on importe de la viande, en particulier du porc, hein, on va perdre le contrôle du marché, apparemment. Et ensuite, on importe de la viande de bœuf de partout. Et la volaille, ça ne va pas tarder. Voilà. Et les consommateurs, vis-à-vis de la viande, il y en a ça diminue. Il y a tout un mouvement de fond, on le sent, on en entend parler. Je regrette un peu, moi qui aime bien le steak. Et ensuite, il y a quand même l'histoire du poulet. C'est voilà. Aussi, c'est qui prend de la place, la viande de poulet prend une place qu'elle n'avait pas autrefois. Les importations de poulet augmentent aussi. Où va-t-on aussi, de ce point de vue? Donc, par rapport au paysage du Volvestre, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, nos belles prairies, dans les pentes, hein, avec du bétail. Bon, jusqu'à quand?
Pour le Volvestre, moi, sur la vente directe, tout ce qui est, parce que je fais du porc aussi, en vente directe, bon, j'ai pas eu d'incidence jusqu'à présent. Par contre, là où je peux râler un peu, c'est qu'au niveau européen, qui soi-disant devait nous protéger, ils vont faire rentrer le double d'importations de bœuf américain. Oui. Bon, voilà, là, c'est une concurrence qui est purement déloyale. Oui, oui. Déjà qu'au niveau de l'Europe, on n'est pas tous harmonisés à la même échelle. Là, si en plus on fait rentrer de l'américain canadien, c'est
une... C'est les accords du CETA. Oui,
du Mercosur.
Pas que le CETA.
Pas que le CETA, mais non. Le CETA a fait ça pour la viande d'origine dite canadienne. Et je peux vous dire tout à fait tranquillement que cette viande venant du Canada, et en fait, était passée uniquement par le Canada. Elle venait d'un peu plus bas. Voilà. Il faut voir les camions tels que je les ai vus à la frontière entre les deux pays. Et est-ce que les stagiaires ont une nouvelle question à poser ?
Non.
Messieurs, qui avaient... merci beaucoup d'être venus.
Ben, merci.
Merci beaucoup d'être venus parler de votre expérience. Et je vous laisse la parole pour la conclusion.
Non, mais merci à vous surtout de nous laisser nous exprimer un peu sur ce qu'on vit au quotidien, vu qu'actuellement, on est plus décrié qu'autre chose.
Ah oui.
Bah, merci de nous avoir reçus. On en a pu en parler un peu. C'est vrai qu'on aurait pu y passer l'après-midi, tellement il y en a à raconter. Mais c'était bien de partager ce moment-là pour un peu éclaircir ce qui se passe dans le Volvestre.
Mais Confolie vous est ouvert et vous revenez quand vous voulez parler toujours sur le sujet de l'agriculture, pourquoi pas de notre souci.
Oui, on en refera une, ça c'est sûr.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.